François Borchet, qu'est-ce que l'âme slave ? Nous avons tout perdu, disait un de ces Russes dispersés à travers le monde, comme il y en a tant aujourd'hui. Nous avons perdu nos parents, nos terres, notre situation sociale. Nous sommes sans domicile, sans profession, sans argent. Mais il nous reste le charme slave. Et là-dessus, il riait, comme ils rient tous un peu nerveusement. Mais quand on expliquait ce que la chose même, sur ce charme qu'il considérait comme le privilège imprescriptible de sa race, cet exilé n'en avait cure, tellement il s'agissait dans son esprit d'une vérité évidente. L'expression de fait est si courante qu'elle a pris l'apparence d'un axiome. On dit le charme slave comme on dit le bon sens français. Par contre, il arrive que l'on parle aussi quelquefois de duplicité slave, tout comme on parle d'ailleurs de vanité française. Et ce sont là des termes qui, quoique moins flatteurs, n'est-ce pas que d'être l'un et l'autre assez répandus. Je les rapproche à dessein pour qu'ils se neutralisent et perdent ainsi leur aigreur. Comme chacun sait que tous les Français ne sont pas vaniteux, on ne m'accusera pas d'avoir prétendu que tous les Slaves sont fourbes. Charme slave, duplicité slave, bon sens français, vanité française, toutes ces formules, en effet, ne sont que des lieux communs, c'est-à-dire de ces traits généraux universellement admis, qui comportent une multitude d'exceptions. Cependant, ces vastes synthèses imprécises dont est composée ce qu'on nomme la sagesse des nations, sont-elles de pures idoles verbales ? Ne correspondent-elles pas, au contraire, à en réalité ? Et cette réalité, si vague qu'elle soit, ne peut-on essayer de la définir un peu comme on dessinerait à l'estompe le noyau d'une nébuleuse ? Nombreux sont aujourd'hui les émigrés russes dans tous les grands centres de l'Occident et jusqu'en Amérique. Beaucoup dans leur exode se sont arrêtés à Paris. Ces hôtes nouveaux, il est de notre intérêt, je crois, de ne pas les ignorer. En outre, que se passe-t-il au juste là-bas, à l'Est ? Du grand bouleversement accompli, la plupart des Français ne savent qu'une chose, c'est qu'il dure depuis 7 ans. Le reste, pour eux, c'est une énigme. Peut-être, si on avait du caractère russe une connaissance plus intime, serait-on moins surpris, moins perplexe ? Qu'est-ce donc cette âme slave, cette âme qu'on dit parfois séduisante et tantôt fallacieuse, ou chez laquelle le don de plaire et l'aptitude de tromper ne seraient que les deux faces d'un seul et même tempérament ? L'auteur de ces lignes a passé 4 années consécutives en Russie avant la guerre. Il avait sa résidence habituelle à Moscou, mais il a fait de fréquents séjours à Saint-Pétersbourg, à Ryazan. Il a visité Petrozavodsk, Arkhangel, Viatka, Pyrn, Kazan, Nijni Novgorod, Kiev, sans parler de ce qu'on nommait à l'époque les villes de district. Et il connaît aussi les villages perdus dans la campagne illimitée. Et il a vécu souvent des semaines au milieu de pèlerins dans les grands monastères du pays. Troïtsa, Solovski, et bien plus, il n'était point là-bas un simple voyageur, un passant. Il avait des attaches dans une famille, tout ce qu'il y a de plus russe. Son jeune fils, qui dans les veines du sang slave, est né sur les bords de l'Oka. L'avertissement était utile. Si je n'étais qu'un Français qui a lu Tolstoï et Dostoïevski, Tchekhov et Boumine, mon cas serait celui de tout le monde. De l'âme slave, considérée à travers les livres, je pourrais à mon tour présenter une image ingénieuse qui serait une pure construction de l'esprit. D'autres l'ont fait avec un talent que je n'ai point. Mon dessin est tout différent. J'ai de la Russie une vue concrète, réelle, et c'est cette vue que j'offre au public. Mais d'abord, une distinction s'impose. Outre les Russes, la grande famille slave comprend les Polonais et les Tchèques. Je laisse de côté ces deux groupes importants. Non, certes que je les dédaigne, mais parce que je laisse sur eux précisément que des notions apprises ou livresques. D'ailleurs, l'expression âme slave n'a rien de scientifique, c'est un cliché commode. Le terme, dans son acception ordinaire, vise surtout les Russes, pour la simple raison que ceux-ci, dans l'ensemble des Slaves, sont l'immense majorité. L'instinct le plus profond des Russes, peut-être c'est l'instinct nomade. Nomade, le mot éveille l'idée de la caravane et du campement. Oh, je ne prétends pas pour cela que le Russe d'aujourd'hui ressemble aux Berbères. Il ne voyage à dos de chameau ni ne dort sous la tente. Mais chez le Juif aussi, l'instinct nomade reste fort, et le Juif circule en chemin de fer. Il y a les nomades primitifs qui n'ont pas de maison, il y a les autres, les évolués, qui sous leur toit gardent un vague désir d'être ailleurs, ou bien en dehors de ce souhait latent, et alors même qu'ils ne changent pas de résidence, n'ont jamais le sentiment que leur habitation soit fixe. Et à cette seconde catégorie appartiennent les Juifs non assimilés, et peut-on dire tous les Russes. C'est ce qui explique comment, dans leur dispersion, les émigrés venus de Russie ont presque toujours conservé une insouciance qui nous étonne. Évidemment, il faut dans cette attitude faire la part du fatalisme oriental, du fameux Nietzschevo, et souvent aussi la part du courage. Mais il est certain que le Russe en exil est moins désemparé, moins désorbité que le Français ne serait à sa place. Bref, qu'il souffle moins que nous ne souffririons. Que dis-je ? Au milieu des deuils et des ruines, les émigrés russes goûtent peut-être à leur insu, dans les incertitudes de leur sort, la satisfaction d'un besoin inhérent à leur nature, le plaisir amer de rassasier leur éternelle faim d'inquiétude. Que cet assouvissement soit lui-même pénible, qui s'accompagne d'angoisse et de désespoir, c'est sûr. Mais la douleur qu'il comporte, si nuancée et si riche, est inséparable de ses délices. S'il est un sentiment dont le Russe adore se griser, c'est celui de la nostalgie. Il fuit l'objet de son amour pour le bonheur de le regretter. Il aime mieux de loin que de près. Nombre de ceux qui ont aujourd'hui rompu avec leur patrie dans le dessein d'échapper à leur nouveau maître avaient l'habitude autrefois de venir à l'étranger. Quelques-uns même y séjournaient, non seulement pour jouir d'un climat plus doux et des agréments de la vie occidentale, mais pour combiner avec ses avantages celui plus profond, plus artiste, plus pervers, si l'on veut, de venir la Russie à distance. Paradoxe, non. Tout l'art de Tourguenieff n'est que la culture en serre chaude de cette mélancolie. Et combien était-il, dès avant la guerre, qui se promenant en landau le long des corniches de la Côte d'Azur, si l'un d'eux entonnait quelques chansons de Volga, laissait couler leurs larmes. Des aristocrates, cela dira-t-on, et Tourguenieff à Barine. Tous des cosmopolites, des figures du passé qui n'ont plus rien de commun avec la nouvelle Russie. Oui, les anciens bannis, devenus les maîtres du jour, ont, il est vrai, rallié Moscou. Mais combien sont-ils parmi eux qui, prisonniers à présent de leur propre police, voudraient bien pouvoir s'évader et revenir créer un peu sur les bords du Léman ou dans le quartier Montparnasse, afin d'y regretter la Russie? L'internationalisme théorique n'y peut rien. Le slave ne dépouille point son âme. Les Russes divisés ont beau se haïr, tous, bolcheviques ou anti-bolcheviques, révolutionnaires ou bourgeois, ils sont frères, en dépit du sang répandu. De même que chez le Boujik et le Seigneur, celui-ci fut-il un des hommes les plus raffinés de l'ancienne cour, on reconnaissait à plus d'un trait deux enfants d'une même mère. Au reste, l'instinct nomade du Russe n'est pas, au fond de lui, une de ces survivances ataviques qu'on ne découvre que difficilement à force de coups de sonde. Pour l'observateur, en Russie, ce caractère est patent. J'ai vu bien des intérieurs russes, tous avaient plus ou moins l'aspect d'un campement. Et je ne parle pas seulement des intérieurs pauvres. chez les gens aisés, voire riches, j'ai trouvé les mêmes signes. C'était, par exemple, à côté d'un salon, quelques pièces démeublées, ou bien dans le meuble d'un appartement, je ne sais quoi de désordonné, de provisoire, ou encore une salle à manger où l'on couchait sur un divan, à moins que ce ne fût une chambre à coucher, où traînait sur un lit quelque assiette. Tout était à l'opposé de l'idée d'installation. Notez que cet arrangement provisoire pouvait durer toute l'existence, comme elle arrivait presque toujours, sans que cependant l'esprit en fût changé. On vivait là comme on aurait pu vivre ailleurs, parce qu'il fallait bien vivre quelque part. Je remarquais aussi que dans des logements qui abritaient des familles nombreuses, les portes de communication entre les différentes pièces n'étaient point aussi rigoureusement closes qu'en France. Même avant la Révolution, une chambre en Russie n'était guère un domaine fermé où l'individu se retire, où le titulaire a seul accès. Cette impression de vie en commun était encore plus frappante dans les villas, l'été, à la campagne. Si sociable qu'il soit, un Français ne se détend, ne se retrouve que dans sa chambre aux heures de solitude. Un Russe se sent à son aise, n'est vraiment lui-même que dans la salle commune où chante le samovar. Certes, les bourgeois en Russie, sous le régime bolchevique, ont pu souffrir du communisme légal, lorsqu'il n'était dans la pratique qu'un moyen de les molester. Mais le communisme en soi ne répugne point aux Russes. Toutes les fois que la cohabitation avec des brutes ou des voyous fut imposée par malice à des gens de bonne éducation, cela dut être sans doute un supplice pour ceux, un supplice moindre cependant que celui qu'enduraient les Français dans une situation pareille, car la fraternité en Russie n'est pas un vrai mot. Mais s'il était arrivé que les commissaires chargés d'appliquer la loi eussent entassé dans la même chambre étroite 10 personnes instruites et bien élevées, elles auraient chaque nuit, au lieu de dormir, discuté de tout avec ivresse jusqu'à 4 heures du matin. Et puisque j'ai au début de cet article parlé du charme slave, voilà, je pense, une des raisons de cette séduction. Porte ouverte, table ouverte, cela veut dire aussi ouverture du cœur, bon accueil à l'étranger, parce que le seuil de la maison ressemble au seuil de la tente, parce qu'il n'y a rien de tel que le nomade pour observer les lois de l'hospitalité. Une autre survivance de l'esprit de tribu particulier aux nomades, c'était, avant la Révolution, dans les familles aisées, le grand nombre des familiers et des parasites groupés sous le même toit, parents pauvres, vieilles filles, veuves, amis malchanceux, personnages bouffons, tous réunis comme des chats autour d'une écuelle. Soyez sûr que les nouveaux riches, à leur tour, là-bas, ont déjà leurs clients. Mais l'appel du vaste horizon, le désir continuel de partir, ne croyez pas qu'il soit en Russie une maladie d'intellectuel, un de ces désordres que, chez le nerveux, produit quelquefois la culture. Tolstoï, sentant venir la mort, déserte sa famille et ses toits. Mais dans cette évasion suprême, il ne se comporte point en créature d'exception. Son tourment, le bougique le connaît bien, il l'éprouve. Que de fois lui aussi dans son isva, écartant les rideaux de cotonnade rouge qui pendent devant l'étroite fenêtre, a-t-il regardé au dehors, vers le lointain sans borne? La Russie est si grande. A-t-il besoin pour voyager de s'en aller à l'étranger? À quoi bon même prendre le chemin de fer? Il suffit en été de prendre un bâton et en route, la plaine s'étend à l'infini. Le ciel bleuâtre a dans le tableau une importance extraordinaire, le sol n'étant plus qu'une immense place sous une cloche de cristal démesurée. Rien qui puisse arrêter l'imagination dans les hasards de son flottement. Tout se ressemble, tout se brouille, le brin d'herbe suit le brin d'herbe, et la forêt dans l'espace n'est qu'un souffle, touffe à peine plus haute. Ainsi le moujik, autrefois, seul ou par bande, chaussait les corps sous pieds nus, s'en allait vers les lieux saints. Aujourd'hui, les couvents vénérés sont détruits, les reliques, vraies ou fausses, ont été dispersées, et il ne semble pas que le paysan se soit beaucoup ému de ces profanations. Mais d'où vient donc cette indifférence? Ne devons-nous pas penser que pour le moudjik, le principal attrait du pèlerinage, ce n'était point le but, mais le chemin? Quoi qu'il en soit, il faudra bien que les hommes au premier pouvoir trouvent maintenant d'autres prétextes capables de contenter cet instinct de girovague si fréquent dans les âmes paysannes. Qu'inventeront-ils? Oh, je l'ignore. Ils n'en sont pas une expérience près. Dans leur laboratoire, les générations sacrifiées ne comptent guère plus que des cobayes. Cependant, puisqu'ils se prétendent réalistes, que les nouveaux hôtes du Kremlin prennent leur note de ceci. Le marxisme intégral et universel, c'est très beau, mais s'il est vrai que dans tous les domaines, en histoire et même en géologie, le changement sous la loi, il est le fait aussi qu'il y a dans un pays, dans une race, des choses qui échappent au rythme de révolution politique, des choses qui durent, ou tout le moins, qui ne se modifient que très lentement. On n'empêchera pas par décret qu'en Russie, il ne succède chaque année à la neige, cette poussière d'ocre impalpable, dont le nuage depuis la Chine allonge ses franges sur les routes, la poussière d'Asie. On ne fera pas que tout un slave ne tourbillonne avec cette cendre et n'aime chercher dans le vent une pâture à ses rêves. Enfin, non moins formidable que l'hiver russe, et cette autre réalité, l'ennui russe. Il n'y a que le russe qui sache bâiller, comme il n'y a que lui qui sache boire. Alors, venu du fond de l'être, sort de sa poitrine un soupir émouvant, inquiétant. On se dit, « Oh, cet homme s'ennuie trop, il va sûrement commettre quelque excès. » Le paysan russe qui marche à côté de son traîneau pousse, après avoir fait claquer son fouet, un gémissement lugubre tel que j'en ai jamais ouï de pareil en France. Je me souviens d'une rue en pente qui passait devant mes fenêtres dans un faubourg de Moscou. Par là montaient en hiver d'interminables files de traîneaux chargés de bois. Leur glissement dans la neige ne faisait aucun bruit, non plus que les pas des petits chevaux bourrus. Mais les rouliers qui menaient le convoi s'annonçaient de loin à mes oreilles par un concert d'imprécations funèbres. Je n'ai jamais pu entendre sans serrement de cœur au crépuscule cette longue plainte déchirante. On eût dit d'une procession de forçats grimpant la côte, ou plutôt d'un cortège de damnés qu'aurait foyé dans le vent des démons invisibles. Mais c'est dans les petites villes russes, surtout, que l'ennui était absolu, si total, qu'il acquiert positivement le poids d'une fatalité monstrueuse. D'où vient ce poison subtil qui, à la saison des grands froids, rend les soirées si accablantes? De la lourde atmosphère des poêles, ou bien, malgré le mastic qui bouche les interstices des doubles fenêtres, de la rue déserte et glacée? On ne sait. Mais quand une fois on a respiré cette vapeur asphyxiante, on comprend, on excuse la paresse noire, l'ivrognerie, tous les vices cachés. Et comme alors elle devient explicable, cette impulsion que tous les Russes ont éprouvée ou réfrénée, et qui les porte brusquement à sortir de chez eux, à rompre avec leurs habitudes, à franchir les frontières de leur pays, ou celles même de la vie. Tendance à la fugue, inclination commune, en Russie à toutes les classes. Que de conséquences en découlent, attrayantes ou rebutantes, selon le tempérament de l'observateur. Les bolcheviks ont instauré un ordre nouveau, mais l'expression d'ordre nouveau n'est qu'une formule abstraite. Il y a quelque chose de plus réel, c'est le désordre russe. Cependant qu'on ne se méprenne pas. Je ne fais point ici même d'une façon détournée le procès du communisme. La politique n'est en rien mon affaire. Le désordre russe dont je parle existait avant la Révolution. Indépendant du régime auquel le pays est soumis, il est un des aspects de l'âme russe elle-même. Puisque l'idée de fixité, d'établissement, est en foncière opposition avec ce qu'il y a d'essentiel chez le russe, comment celui-ci aurait-il ce respect de cadre qui est chez nous si frappant, même dans les périodes les plus troublées? J'ai connu l'ordre prétendu de l'aristocratie. Ce n'était qu'une façade derrière laquelle s'enchevêtrait une multitude de désordres, désordres des administrations, de l'armée, de l'église, du monde universitaire, du monde des affaires, désordres de la vie russe tout entière. Existe-t-il maintenant en Russie, et quelle que soit la valeur de cet ordre, un ordre enfin véritable? Oh, j'en doute. On ne me fera point croire que les lois des soviets ne sont pas à leur tour transgressées de mille manières. Nous le savons d'ailleurs. Bien des personnes traquées ont dû à cette indiscipline du compte social ou à cette négligence des agents de l'autorité d'avoir la vie sauve. Le recours aux procédés d'ancienne police, les répressions sanglantes, tant d'à-coups, tant d'exaspérations dans l'exercice du pouvoir, tout cela ne prouve-t-il pas encore combien en Russie une règle, quelle qu'elle soit, a de peine à s'établir et à s'imposer? Ce n'est pas par une simple fantaisie d'homme de lettres que Gorki compare Lénine à Pierre le Grand. Tous les deux ont en ceci effet de commun le point de fer nécessaire pour maintenir dans un équilibre apparent et dans un semblant d'unité cet organisme immense de la Russie qu'un principe de dissociation ne cesse de travailler intérieurement. Ce même esprit de désorganisation, de dispersion constante s'observe dans la famille. Ainsi se retrouve dans la cellule le mal qui ronge le corps entier. Évidemment, chez nous aussi, la famille a perdu sa cohésion d'autrefois. Mais ces liens qui, en France même, ne sont fort relâchés, il semble qu'en Russie, ils n'existent pour ainsi dire pas du tout. Je sais bien qu'il en est autrement jadis, et que dans l'antique famille russe, telle qu'Anostrovski l'a peinte, l'autorité paternelle était volontiers despotique. Mais un certain despotisme était peut-être nécessaire dans la famille comme dans l'État pour qu'un peu d'ordre y fût sauvegardé. Là encore, la tyrannie apparaît comme un barrage opposé à toutes les fuites, à toutes les désunions. Quoi qu'il en soit, dès avant le bolchevisme, la famille en Russie était en pleine décomposition. Non que la tendresse y manquât, mais ce qui faisait absolument totalement défaut, c'était le sentiment de la hiérarchie, l'idée exacte des rapports de dépendance qui doivent, du moins selon la morale traditionnelle, attacher les enfants aux parents. L'irrespect de la jeunesse à l'égard des pères, des mères et d'une façon générale de toutes les personnes d'âge était inimaginable, ahurissante. Je ne connais pas de pays où gamins et gamines, 15 ans, soient plus présomptueux, plus assurés de détenir entre leurs mains les promesses d'un avenir meilleur, ou plus enclins à détruire avec un naïf mépris tout ce qui fut avant eux. Certes, les théoriciens de la table rase n'ont pas dû avoir de peine à enrôler ces enfants, de même qu'ils n'ont fait qu'achever la dislocation de la famille. À coup sûr, il y a du désordre en France et ailleurs, mais le désordre des pays d'ordre, même quand il est grave, n'a rien de commun avec le désordre organique, spécifique, dont il est ici question. Tous les Russes de bonne foi, j'en suis certain, me comprendront. Lénine lui-même, en dépit de son extraordinaire volonté, portait en lui tous les signes de cette tendance au changement qui, dans le domaine du cœur, rend le russe infidèle et, dans le domaine de l'esprit, le rend inconséquent. N'est-ce pas Lénine qui a dit qu'il ne considérait les hypothèses comme des instruments de travail? Et combien d'hypothèses, dans un temps si court, a-t-il usé et rejeté? Cependant, c'était un doctrinaire, mais un doctrinaire russe, c'est-à-dire encore un nomade, sans principe fixe, allant de compromis en compromis, et dans le moment même qu'il appliquait une théorie, sollicité déjà par quelque autre. Ah, la caravane qui a suivi cet esprit instable est loin de Karl Marx, son point de départ. Et comme le chef slave aux pommettes saillantes, aux regards aigus et mobiles, est différent de l'avocat d'Arras, à l'œil froid, au corps tout d'une pièce. Celui-ci, du moins, ayant ainsi ses convictions sur le roc, s'y logeait comme dans une tour. Mais si la variabilité se traduit en politique par la fureur de mettre à l'essai tous les systèmes, ce n'est pas sans risque, par contre, en littérature, en art. Quels bénéfices les Russes n'ont-ils pas tirés de leur nature ondoyante? Car notez que le mot ondoyant n'est pas synonyme de superficiel. Il signifie littéralement qui ondoie. Il y a des eaux profondes, et l'âme slave ressemble à ces eaux-là. Certes, je ne dirais pas jusqu'à soutenir que pour l'écrivain, pour l'artiste, la discipline soit sans utilité. Les lettres françaises, les arts français ne sont qu'un long témoignage renouvelé de siècle en siècle en faveur de la raison. Mais la logique n'est pas tout. L'intuition aussi est un instrument précieux. Il existe des genres littéraires notamment où le don divinatoire, même s'il est le fruit d'une sensibilité maladive, passe en vertu, l'aptitude à construire. Les Russes sont des romanciers nés. Ce qui les sert encore ici, c'est je ne sais quelle impudeur dans l'aveu qui leur est particulière. Chez nous, la confidence est chose précautionneuse, la confession chose secrète, rituelle. En Russie, la pratique de l'une et de l'autre est générale et publique. Chacun se raconte, s'accuse et se repent devant n'importe qui, n'importe où, en chemin de fer, au restaurant, à l'étuve. Le russe met son orgueil non pas à se grandir, mais à se rabaisser, car il montre ainsi qu'il connaît toutes les faiblesses de l'humanité. C'est elle qu'il plaint en sa personne. Et de plus, pour lui avouer ses torts, équivaut à les effacer. Poète né, les Russes le sont également. Cet abandon qui est le propre même du lyrisme, quelle sourde effusion n'est-il pas quand il se joint à une hyperesthésie de tout l'être, ainsi qu'il arrive fréquemment chez les Slaves? La poésie n'est point là-bas, comme en France, l'objet d'un culte privé auquel les masses sont indifférentes. Elle est universellement répandue. On représente toujours le moujik en Occident comme un cerveau obtus. Permettez-moi de sourire. Cet ignorant est d'abord très malin, mais surtout il est sensible, j'ose dire plus, artiste. Il bat sa femme comme plâtre, c'est entendu. Il est même, dit-on, Gorki l'affirme en tout cas, devenu en ces dernières années très cruel. Alors c'est qu'on l'a rendu tel et que sa séculaire souffrance n'a guère été allégée. Mais n'importe, son âme est ouverte à la poésie. Pour ceux qui s'en rapportent qu'au texte, la magnificence du folklore en Russie est là pour le prouver. Et le moujik, en outre, est musicien. Tous les Slaves le sont. Comment la musique, l'art qui déchaîne les forces obscures, où la passion parle sans retenue, ne serait-il pas cher aux Russes? Est-ce à dire qu'il n'y a dans l'âme slave rien de constant, si ce n'est son inconstance même, avec tout ce qui en découle? Non, mais parmi les traits invariables, communs à tous les Russes, certains sont trop connus pour que j'y insiste. Par exemple, le goût sadique de la douleur, déformation peut-être du sentiment chrétien, et l'ivresse du sacrifice, la religion de la pitié. Oh, il me souvient d'une jeune fille belle, spirituelle, cultivée, raffinée, toutes les grâces, tous les dons. Elle marche environnée d'une cour. Des étudiants se tuent pour elle. Et un jour, on apprend qu'elle est mariée. Et avec qui? Avec un bossu. Intelligent, non, stupide. Riche, non, sans un copec. Alors pourquoi? Parce qu'il était le plus faible. Compassion, évidemment, mais orgueil aussi, orgueil forcené. Il fallait à cette jeune déesse quelqu'un à qui elle ne dut rien et qui lui fut redevable de tout. Elle a trouvé ce dégénéré, une aubaine. Oh, voilà qui est bien russe. Un autre caractère permanent des Slaves, celui-ci généralement ignoré, c'est leur ardent patriotisme. Oh, oui, sans doute, cela peut surprendre. Il m'a fallu longtemps à moi-même pour m'en apercevoir. Mais ce sentiment est d'autant plus profond qu'il est plus dissimulé. Bien avant que les bolcheviks eussent érigé en plein principe de la dictature prolétarienne en dogme international, il était de mode en Russie de railler notre nationalisme. En France, me disait-on, tout le monde est chauvin. La vérité, c'est que l'idée de patrie est chez nous attachée au sol. Ce n'est envers cette forme de patriotisme que le russe n'a que moquerie. Le pays là-bas est si vaste, le cœur si éloigné des extrémités, que la nation n'a pas comme la nôtre, si j'ose dire, des frontières chatouilleuses. Il est de tradition qu'en Russie, l'espace a toujours lassé l'invasion. Cependant, quand j'habitais Moscou, une particularité finit par me frapper. C'est le continuel emploi, l'abus de l'adjectif russe appliqué à toute chose. Le printemps, l'hiver, le soleil, la glace, la beauté, la bonté, la gaieté, l'humour, etc. Comme si chacun avait eu la conviction que les couleurs de saison, les expressions des visages, les qualités et les défauts des hommes, tout avait en Russie on ne sait quoi de spécial, de mystérieux, d'absolument impénétrable pour l'étranger. Et je compris que l'apparente modestie du russe, qui l'oppose si volontiers à notre vanité, cache un orgueil délirant. L'orgueil. Oh oui, j'ai prononcé ce mot déjà plusieurs fois. C'est qu'il est des clés de l'âme slave, toujours méprisante jusqu'à le moment même où elle s'humilie. Le patriotisme russe est donc un orgueil national quasi mystique, assez analogue à l'orgueil racial du juif errant. L'un et l'autre sont des fiertés de nomades qui se jugent incomparablement supérieurs à tous les peuples de la terre. Et d'ailleurs, par parenthèse, si le russe est en bien des points l'antipode du juif, souvent aussi, quoi qu'il dise et malgré qu'il en ait, il le rejoint. Éloignement et rencontre expliquent bien des choses. Du charme slave, on aura, je l'espère, et chacun selon ses goûts, trouver dans ce que j'ai dit une explication suffisante. Mais, puisque nous voici ramenés à la théorie du nomadisme, comme vers le centre de notre examen, je voudrais en terminant rattacher à ce même point de vue les raisons pour lesquelles l'âme charmante a pu être ainsi quelquefois accusée de duplicité. Double elle, non, c'est trop peu dire. Plutôt à triple, à quadruple fond, ou mieux encore à fond mouvant, comme une baie peu sûre. Mais ne parlez pas de fourberie. Le mot double éveille l'idée de fausseté. De là vient la confusion. L'âme slave est la moins hypocrite qui soit. Elle est même terriblement sincère, puisqu'elle l'est à chaque instant et qu'elle varie sans cesse. Nous non plus nous n'échapperons pas à la loi du changement qui est celle de la vie, mais nous nous efforçons d'accorder nos opinions successives, de concilier nos sentiments d'aujourd'hui avec ceux d'hier. Nous cherchons des moyens termes, des compromis qui nous permettent de composer de nous-mêmes, pour les autres et à nos propres yeux, une image qui se tienne. L'identité du moi, c'est de construction abstraite, n'existe point chez le russe. Instable essentiellement, il accomplit en lui-même les plus aventureux voyages, et sa personnalité de la veille ressemble à ce qui reste de cendres refroidies, dans les lieux à présent déserts, où le nomade un soir a campé.